La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous sommes Julie et Léna, salariées d'Impact.
Dans chaque émission, nous vous emmenons à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable.
La main à la pâte s'intéresse aujourd'hui au sujet du handicap et de l'ergonomie sur une ferme. Nous serons en compagnie de Josiane Voisin, ergonome, en duplex sur cette émission, qui répondra aux propos et aux récits de Pascal Bouche, apiculteur en situation de handicap dans l'Indre. Thématique vaste, complexe, passionnante, nous y consacrerons 2 numéros. Alors c'est parti pour ce premier épisode.
Oui, bonjour. Donc Pascal, donc apiculteur aujourd'hui, donc suite à une reconversion professionnelle donc en 2020, faisant suite elle cette reconversion en licenciement pour inaptitude suite à des problèmes de santé, voilà. Alors sans rentrer dans le détail, voilà, ça concernait des gros problèmes lombaires. Et qui nécessitait effectivement un changement de travail pour faire un travail beaucoup plus physique. Alors, étant passionné d'apiculture depuis mon plus jeune âge, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'apiculture pour ce nouveau projet professionnel.
Donc, moi, je suis Josiane Voisin, je suis ergonome. En fait, depuis 2007, donc ça fait maintenant quelques années, j'ai fait une formation en ergonomie après avoir fait un certain nombre de choses, mais en particulier avoir travaillé pas mal en agriculture. Et du coup, l'agriculture est un domaine que je connais plutôt bien. En termes d'ergonomie, quand je me suis formée et installée à mon compte, en fait, j'ai souhaité travailler dans diverses activités les plus variées possibles avec des types d'interventions et d'accompagnements très différentes, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire, avec des agriculteurs, mais aussi avec des architectes, dans des domaines plutôt de des ambiances de bureau, des choses comme ça. Et puis en fin de carrière, je suis revenue à mes premières amours et du coup, je n'ai pris plus que des interventions, des accompagnements en agriculture. Je suis bénévole à Solidarité Paysan aujourd'hui. Donc voilà, on est un peu en lien. J'ai travaillé beaucoup avec des groupes d'agriculteurs dans le cadre de formation et en particulier avec la DARCIVAM. Là, on a dû faire 3 ou 4 sessions, je ne sais plus vraiment. J'ai aussi travaillé pour des agriculteurs qui, en fait, avaient des problèmes de santé et se retrouvaient un peu en situation de handicap et... C'était des agriculteurs qui voulaient ne pas changer de métier, continuer sur leur exploitation. Et du coup, c'était la question, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut changer sur la ferme pour que le travail qui aujourd'hui est devenu impossible tel qu'il est, puisse être réalisé par la personne dans la situation où elle est aujourd'hui. C'est un accompagnement qui m'a appris beaucoup de choses, dans le sens où... des choses qui étaient impossibles avant ce problème de santé, progressivement devenaient possibles, voire des choses que vraiment les agriculteurs ne voulaient même, enfin ils voulaient absolument pas entendre parler, et d'un seul coup ça devenait possible parce que c'était une des conditions pour continuer le métier. Et là on découvre que quand on change ses façons de faire, des choses dont on pensait qu'elles allaient, par exemple, dégrader le résultat économique, en fait, les résultats sont exactement les mêmes. Donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'ouvrir un peu sur des possibles. On part des impossibles pour arriver à des possibles, et ça, c'est vraiment chouette.
Et j'ai construit ce projet d'abord en prenant contact avec l'ADARI. J'avais entendu parler du stage paysan créatif. Et c'est une formule qui me plaisait beaucoup. Alors, c'est vrai que techniquement, l'apiculture, pour l'avoir pratiquée plus d'une trentaine d'années, en étant monté jusqu'à peu plus d'une trentaine de ruches. J'avais déjà bien pratiqué l'apiculture, donc techniquement, je me sentais tout à fait en mesure de pouvoir me lancer dans ce projet. En revanche, il y a tous les aspects un peu stratégiques, gestion de l'entreprise, financement, investissement, tout ça était assez flou pour moi. Et je me disais que pour gagner du temps, eh bien, il serait bon de plutôt se former et d'aller vers les professionnels du secteur, c'est-à-dire ceux qui sont devenus mes collègues aujourd'hui. Donc déjà, au niveau de la ferme par elle-même, effectivement, c'est un lieu qu'on a acquis en 1995. Donc ça a permis d'avoir un ensemble assez cohérent et tout à fait en adéquation avec un tel projet en termes de bâtiments et de surface. Puis aujourd'hui, j'ai 200 ruches. Je ne produis que du miel. Voilà, c'est ma seule activité en tant qu'apiculteur. Et à côté, je commercialise en direct, mais également en gros une partie de ma production. Et je fais également de la transformation avec de la fabrication notamment de nougat, de pain d'épices et de pâte à tartiner.
Alors, l'ergonomie, pour faire simple, c'est adapter le travail à l'homme, alors que la plupart du temps, on essaye d'adapter l'homme au travail tel qu'on voudrait qu'il soit réalisé. Alors, soit dans n'importe quelle entreprise, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la direction va décider des choses et après, on va essayer, par exemple, de faire en sorte que les salariés adaptent leurs horaires à l'organisation qu'on a prévue et pas l'inverse. En agriculture, là où c'est plus compliqué, c'est que comme l'agriculteur est souvent seul ou avec quelques associés, parfois c'est l'agriculteur qui lui-même se demande des choses ou c'est lui qui doit s'adapter.
Alors pendant le stage paysan créatif, alors moi c'est vrai qu'ayant eu une activité d'apiculteur amateur, j'avais déjà un peu de stock de miel. Donc avant de me lancer dans l'aventure, je me suis déjà dit que commercialement, il faudrait peut-être tester la vente locale sur des marchés notamment. Donc parallèlement au stage paysan créatif, eh bien, j'avais cette activité de vente, de conditionnement de ma récolte de l'année précédente et de la gestion de mon cheptel à l'époque qui se montait à 70 ruches. Voilà. Ça m'a permis d'avoir un aperçu quand même de la viabilité du projet et de prendre, je ne vais pas dire un peu d'avance, mais d'être déjà présent sur le terrain. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment bien fait parce qu'effectivement, une installation avec la vente qu'on démarre bien après serait beaucoup plus compliquée parce que ça m'a permis d'avoir une trésorerie et de pouvoir avancer plus sereinement dans mon installation financièrement.
L'ergonomie, en prenant en charge toutes ces dimensions du travail, peut regarder le travail d'un agriculteur sous tous ses angles, à la fois sur l'angle du travail stratégique, ou je pense qu'on pourrait comparer à un travail du directeur dans une autre entreprise, et où là, c'est plutôt un travail qui sollicite le cognitif, le subjectif, le social, etc. Et puis, l'agriculteur fait aussi un travail de cadre, c'est-à-dire qu'il va être amené à organiser un petit peu ce qu'il a décidé de mettre en place, par exemple un système de production. Il a décidé de plutôt travailler, ça peut être un éleveur qui a décidé de nourrir ses animaux plutôt à l'herbe, etc. Mais ça, il va falloir le mettre en musique après, quoi. Il va falloir décider de l'assolement, des parcelles qu'on fauche, puis d'ailleurs quel type de fourrage on fait, et pour partie de directeur et pour partie de cadre. Et l'agriculteur fait aussi le travail opérationnel, et c'est là où rentrent en ligne de compte souvent les aspects physiques. Avant le travail opérationnel, les aspects physiques rentrent peu en ligne de compte. Et en agriculture, le travail qui se voit de l'extérieur et seulement le travail opérationnel.
La main à la pâte.
Alors le processus, alors tout d'abord, effectivement, il était nécessaire d'avoir une, ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance donc en qualité de travailleur handicapé. Voilà. Donc dès lors où on a cette reconnaissance, eh bien, il est possible de demander des aides sur des investissements relatifs aux moyens, notamment de manutention dans mon cas. Partant de là, effectivement, il y a une petite évaluation qui est faite sur le terrain, c'est-à-dire sur l'exploitation. En l'occurrence, pour me concernant, c'était des personnes de Cap Emploi 36. Donc, dès lors où ils ont évalué le besoin, on propose ou on regarde ensemble le matériel le plus en adéquation possible avec ce besoin. Et donc, il y a une proposition qui est faite auprès de la GFIP pour une partie du financement de ces moyens, donc pour ces investissements. Et ensuite, eh bien, on a un retour qui, pour moi, j'ai eu trois demandes. J'ai fait trois demandes et qui ont toutes été favorables avec des taux de participation qui peuvent être variables, évidemment, en fonction du montant de l'investissement. Plus l'investissement va être onéreux, plus la part prise en charge par la GFIP sera faible, évidemment. Enfin, le pourcentage sera plus faible, évidemment. Alors moi, je suis un petit peu particulier. C'est vrai que, peut-être du fait de mon handicap, je ne sais pas, ou des périodes que j'ai traversées, un petit peu compliquées, c'est vrai que je suis moins rapide dans ce que je fais, dans mes actions. En revanche, elles se font sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que j'ai une grosse capacité de travail, mais avec une intensité qui n'est pas forcément extraordinaire. Voilà. C'est un petit peu ce qui me sauve aujourd'hui, hein, on va dire les choses comme ça. Et effectivement, vu mon handicap, j'ai tout de suite pensé à mon installation en incluant des systèmes de manutention qui me permettraient de peiner le moins possible dans le cadre de mon activité. Donc avec notamment tout ce qui est gestion de la transhumance, c'est-à-dire du déplacement des ruches, de la récolte du miel, puisqu'en fait, en apiculture, nous sommes vraiment des travailleurs de force. On va lever les hausses au moins 5 à 6 fois jusqu'à l'extraction du miel.
Pour ne pas perdre nos auditeurs et nos auditrices, il semble que des précisions s'imposent ici sur les définitions techniques de ce que constitue une ruche.
Alors, simplement savoir qu'une ruche est ainsi constituée. Vous avez un plancher, un corps de ruche et des hausses qu'on va rajouter au fil de la saison. Le corps de ruche, on n'y touche pas, on va dire, d'un point de vue récolte du miel. La récolte, elle ne se fait que sur les hausses, qui sont des éléments qu'on rajoute sur le corps de ruche au moment de démieler et que l'on va récolter. Et il faut savoir que ces hausses, lorsqu'elles sont pleines de miel, elles peuvent peser, alors incluant évidemment le poids du bois, etc., entre 30 et 35 kilos. Donc voilà, sachant que sur une récolte, comme à la récolte de printemps, il est assez fréquent d'avoir entre 2 et 3 hausses par ruche. Donc imaginez un petit peu le poids que ça représente à porter, c'est-à-dire, on va dire globalement, même si on réduisait à 2 hausses sur 200 ruches, eh bien vous allez arriver rapidement à 400 hausses fois 35 kilos. Allez, on va mettre en moyenne 30 kilos, 3 fois 8, 24, vous avez levé 2 tonnes 4. Voilà. Alors ça ne se fait pas en une journée évidemment. C'est étalé dans le temps, mais ceci dit, il faut enlever les hausses des ruches. Ensuite, on les met... Alors, moi, effectivement, cette palétisation, elle s'est faite dès la récolte, c'est-à-dire qu'on va poser les hausses sur la palette, une palette qui peut contenir jusqu'à 20 hausses. Cette palette est transportée avec un petit chargeur qu'on va aller voir tout à l'heure, qui est un Bonapi, qui me permet de charger, de lever 500 kilos. C'est un petit peu mon valet de ferme, on va dire ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je charge sur une remorque. Mon Bonapi est chargé également sur la remorque. Et ensuite, je décharge tout avec ce Bonapi. Et tout le parcours au niveau de la miellerie pour l'extraction se va se faire grâce à des gerbeurs électriques ou à des tire-palettes. Voilà. Ce qui veut dire que les hausses, elles n'auront été portées qu'une fois, voire deux fois si j'utilise des chasse-abeilles pour faire la récolte. C'est des systèmes qu'on peut retrouver dans d'autres installations. Mmh. En revanche, pas forcément avec un niveau de ruche aussi bas. On va le retrouver, puisque vous voyez, les gens qui ont 150 à 200 ruches, souvent ils vont déplacer les ruches à la main, ils vont faire leur récolte, effectivement, certainement palettisée, mais derrière, pas forcément à partir du rucher. Hein. Mmh. Elles vont être palettisées à partir du moment où elles vont rentrer dans la miellerie.
La main à la pâte, une émission proposée par Impact Centre et Impact 37.
Quand on est appelé à accompagner un agriculteur en situation de handicap, moi je vais faire une première rencontre où on va évoquer, essayer de comprendre la situation, que l'agriculteur m'explique un peu la situation telle qu'il le vit aujourd'hui et quelles sont ses attentes. Et du coup, moi je vais essayer de voir avec lui comment on va s'y prendre. Quand on a affaire à un agriculteur qui vivait son métier en toute possession de ses moyens, en tout cas c'est ce qu'il croyait, parce que des fois ça vient petit à petit, et on ne veut pas le voir et on attend un peu trop, mais quand le problème de santé survient, il y a quand même toujours une phase où en fait on prend quand même un peu un coup sur la tête. Parce que on sent que ses capacités physiques ne sont plus les mêmes, qu'elles ne vont plus être vraiment les mêmes. Et du coup, il y a une phase de, je sais pas comment il faut dire, d'accoutumance à cette idée-là. Et il y a tout un cheminement à faire pour accepter de bien vouloir aménager l'exploitation. Alors, il y a des personnes qui décident d'arrêter le métier. Bon, ceux-là, nous, on les voit pas. Ce qu'on voit, c'est ceux qui ont décidé de poursuivre leur métier, mais malgré tout, ça suppose un gros travail sur soi, un gros cheminement pour se dire « je vais continuer, mais ce ne sera pas comme avant ». Quoi. Et il faut que je tienne compte de mes capacités aujourd'hui et il faut que je trouve des solutions pour arriver à faire ce métier-là.
On va accéder donc à la miellerie. Voilà, alors ici c'est l'entrée de la miellerie. Et j'ai un tire-palette hein, qui me permet de récupérer les palettes de hausse et de les emmener en chambre chaude ici. Alors, la chambre chaude pour l'instant sert plutôt de chambre froide pour la conservation de mon miel. Donc ici, vous avez une partie de la récolte 2023. Tout est palettisé. Ouais. C'est-à-dire que là, en période hivernale ou après les dernières récoltes, eh bien, les hausses sont emmenées au nettoyage dans les ruchers. Quand je dis nettoyage, c'est les abeilles qui nettoient elles-mêmes. Et ensuite, je récupère ces hausses. Tout ça est palettisé. Hein. Je ramène tout ça sur la ferme et je stocke sous mon bâtiment tôle. Alors, cet équipement me permet aujourd'hui de travailler quasiment qu'avec des fûts. Et c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir une multitude de seaux, parce qu'en termes de volume de stockage, sur la plupart des grosses millets, tout est mis et stocké dans des fûts.
Dans nous, notre fonctionnement, on va toujours observer le travail réalisé par l'agriculteur. Alors on n'observe pas tout, mais justement, dans notre première rencontre, on essaie de lister un peu quelles sont les tâches qui sont les plus difficiles à réaliser pour l'agriculteur. Et du coup, c'est celle-ci qu'on va observer. On se met d'accord sur celle qu'on va observer. Cette phase d'observation, elle est importante pour nous, pour comprendre le travail tel qu'il le réalise, voir les difficultés qu'il a aujourd'hui, ou s'il est remplacé par une personne parce que lui-même ne peut pas travailler au moment où on intervient chez lui, on va observer la personne qui fait le travail pour voir et essayer de comprendre. Alors, ça, c'est pour nous, pour vraiment être sur le terrain et bien comprendre le déroulé du travail et du coup les postures et par rapport au handicap en question, qu'est-ce qui devient possible, qu'est-ce qui devient impossible, pardon, et qu'est-ce qui reste possible. Ces observations, elles ont une deuxième, comment dire, une deuxième valeur, ou je sais pas, un deuxième intérêt, c'est que soit nous, enfin, avec l'apport des personnes, bien sûr, on va peut-être faire des vidéos, mais on va aussi rédiger une description du travail. Et du coup, ça permet de renvoyer à l'agriculteur une vision de son travail que finalement, lui, il n'a pas, même si c'est lui qui fait son travail. Et du coup, ça permet d'avoir un regard partagé sur le travail pour pouvoir discuter des aménagements qu'il aura à faire. Parce que bien sûr, chaque agriculteur, même pour une tâche qui a le même nom, ne procède pas de la même manière. Et du coup, à partir de ça, on va faire ressortir un peu les difficultés qui sont maintenant là, et puis on va aussi faire ressortir, bien sûr, ce qui est encore possible.
Le fait d'avoir réfléchi à toute cette organisation m'a permis de m'orienter vers le choix de mon matériel de manutention, c'est-à-dire ce petit chargeur, le Bonapi, eh bien, c'est un matériel qui est polyvalent. C'est-à-dire que j'avais des choix multiples pour pouvoir réaliser la transhumance. J'aurais pu très bien m'équiper d'une petite grue qui s'installe à l'arrière d'une remorque, mais j'ai fait ce choix de chargeur autoporteur parce qu'il me permet également de faire toutes les manutentions sur la ferme. Donc c'est un matériel polyvalent, c'est-à-dire qu'il me sert à déplacer tout mon matériel sur la ferme, il me sert à faire la transhumance et il me sert également à faire mes récoltes. C'est un peu le cœur de mon organisation.
La main à la pâte.
Les conditions de travail, alors c'est compliqué quand on s'installe, parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, ça va faire ma quatrième année, mais j'ai encore un rythme de travail extrêmement soutenu. Voilà, je n'ai pas encore pris réellement de vacances. Quand on s'arrête, souvent, c'est l'arrêt des marchés, mais on continue à s'occuper de la gestion de notre cheptel, hein, les ruches, même en hiver. Hein, c'était mon boulot de première semaine de janvier, avant l'arrivée des froids. Ensuite, on passe à la comptabilité. Enfin, on n'a pas vraiment de. Enfin, moi, je n'ai pas encore réussi à trouver du temps pour moi. Ceci dit, en termes de rythme de travail, effectivement, sur ces premières années d'installation, c'est compliqué de trouver du temps disponible. Aujourd'hui, là, je vais commencer à me rémunérer. Voilà. Déjà, ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que. Alors, c'est aussi un choix. Hein. J'ai eu recours pour les investissements à de l'emprunt bancaire, mais dans des limites tout à fait raisonnables. Donc, je ne voulais pas trop m'endetter. Ensuite, j'ai bénéficié quand même du chômage lors de ma période de reconversion, c'est-à-dire au prorata de mon activité apicole, hein, c'est-à-dire qu'on défalque les revenus liés à l'activité apicole. Durant 2 années, voilà, ça m'a permis effectivement de gérer les choses un peu plus facilement. Et la troisième année, ça a été un petit peu plus compliqué, mais j'ai préféré privilégier une trésorerie confortable pour être serein pour la suite des événements. Et sachant que, voilà, au bout de la quatrième année, il était prévu que je me rémunère. Voilà. Et c'est ce qui va se faire en 2024.
L'économique, alors c'est curieux parce que dans l'étude moi, que j'ai pu mener en 2012 sur le métier de dirigeant d'exploitation agricole, on avait un panel de 10 agriculteurs chez qui on a travaillé, on a vraiment gratté le plus possible. Et en fait, on avait choisi un panel avec seulement des agriculteurs qui n'a, enfin, le principe, c'était que les agriculteurs n'aient pas de difficultés particulières. En fait, on s'est rendu compte que tous, leur plus grosse inquiétude, c'était l'économique. Et en fait, cette inquiétude économique, elle est permanente, permanente, permanente. Ils ont toujours ça en tête. Et elle est amplifiée par des phénomènes qui se produisent sur lesquels les agriculteurs ne peuvent absolument rien. Et par exemple, les prix, parfois, le climat et ses excès, les problèmes sanitaires qu'on connaît, enfin, qu'on voit ces dernières années. Où en fait l'agriculteur n'est pas en cause. C'est-à-dire que c'est pas s'il change ses pratiques, les problèmes sanitaires comme la grippe aviaire, par exemple, ça va pas changer grand-chose, quoi. Et par contre, ça a des incidences énormes sur l'exploitation. Et du coup, les agriculteurs ont l'impression que l'économique, même s'ils font tout très bien, bah, des fois, ils peuvent être mis en difficulté. Et ils savent aussi que des fois, on ne fait pas tout très bien. Donc, si ça se cumule et que ça se cumule avec, je sais pas, moi, un endettement important, une période d'endettement important, et ben voilà, ils savent très bien que l'exploitation du jour au lendemain, elle peut être mise à mal, quoi. Et cette inquiétude-là, elle est énorme parce qu'ils connaissent des collègues à qui c'est arrivé et que ils sentent très bien que ça peut leur arriver aussi. Bien sûr qu'on anticipe et qu'il y a des calculs savants avant de faire. Avant de s'installer ou avant de faire un investissement. Mais quelquefois, les agriculteurs et même la banque hein, acceptent qu'il y ait des marges de manœuvre très faibles. C'est-à-dire qu'on arrive au maximum de ce qu'on peut rembourser. Donc le moindre aléa, il est très déstabilisant. Nous, moi, en tant qu'ergonome, j'ai l'habitude de dire que quel que soit l'acte qu'on pose sur une exploitation, il faudrait toujours essayer de voir quelle marge de manœuvre il nous reste avant de prendre une décision. Parce que si on a zéro marge de manœuvre partout, et c'est ce qui arrive chez certains, bah, en fait, c'est ça qui empêche de dormir aussi et qui nous trotte dans la tête, on ne peut pas se le sortir de la tête parce qu'on connaît le risque. Enfin, on voit bien que les zéros aléas en agriculture, c'est rare quand même, quoi. C'est un métier où il y a énormément d'aléas et où les agriculteurs savent plutôt bien les gérer, mais jusqu'à un certain, enfin, du point de vue économique et du point de vue climatique et sanitaire, là, les trois points que je viens d'évoquer, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels ils n'ont pas de prise au vu de leur exploitation, quoi. Déjà, s'il pleut pas, il pleut pas, quoi. Enfin.
C'est vrai qu'on a besoin, on a besoin de se sentir bien. Enfin, moi, psychologiquement, j'ai besoin d'être, de me sentir bien pour pouvoir travailler correctement. Et c'est vrai que quand on court après la trésorerie, je pense que c'est pas possible. On ne peut pas s'occuper correctement de ses ruches, d'aller vers ses clients sereinement. Voilà, c'est pour moi quelque chose qui me paraît très compliqué.
C'était La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.